RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur les routes des Pyrénées. Aujourd'hui, le soleil, nouvelle fois présent pour cette étape classique des Pyrénées avec quatre grands cols au programme des coureurs qui en ont déjà avalé un et pas le moindre, le col du Tourmalet qui a été avalé il y a quelques instants. On va faire le point dans une petite minute avec Fred Adam. On va auparavant dire bonjour à toute l'équipe, à commencer par Cyril Guimard dans son arbre là-haut, notre druide qui regarde s'il voit arriver les coureurs. Pas tout de suite, Cyril, il va falloir attendre un petit peu. Bonjour Cyril. Ok, ça marche bien, comme d'habitude, il est en forme. Jérôme Pinault, lui, est en pleine forme.
Moi, je suis là.
Il pète le feu complètement. Salut Jérôme.
Salut, salut à tous.
Pour cette magnifique étape des Pyrénées, Georges Quirino, lui, est sur la moto RMC. Il est avec nous, sous le soleil, évidemment, avec son fidèle Marco, sur la moto RMC. Comment ça va, les gars?
Salut Christophe et bonjour à tous. 25 degrés aujourd'hui sur la route du Tour et on a passé le mythique Tourmalet il y a quelques instants, un décor somptueux et légendaire évidemment de l'histoire du Tour de France.
Parfait, et puis évidemment Frédéric Adam qui note tout ce qui se passe, les écarts, les noms des échappés, les noms des coureurs qui sont en tête de peloton. Fred, on va faire un premier top course assez court parce que derrière nous devons partir à Manille et également à Wimbledon, le top course.
À tout juste 70 km de l'arrivée dans cette huitième étape. C'est quasiment une étape reine aujourd'hui dans les Pyrénées. Deuxième volet du triptyque pyrénéen. Les coureurs dans l'ascension de la deuxième difficulté de la journée. Le col de la Ourquette dans 6 ans, classé en deuxième catégorie. Deux hommes en tête, Thibaut Pinot et Rafał Majka, le champion de Pologne. Tony Martin est avec eux également, le solide rouleur de l'équipe Etix Quickstep. Le peloton des favoris est à 1 minute 55, conduit depuis de longs kilomètres par les Sky. Le maillot jaune de Greg Van Avermaet est dans un groupe de battus à plus de 5 minutes. Van Avermaet, le Belge, qui va perdre sa tunique. Autre battu du jour, Vincenzo Nibali, une nouvelle fois décroché. C'était tout à l'heure dans l'ascension du Tourmalet, tout comme Julian Alaphilippe, qui découvre la haute montagne sur le Tour de France et qui comprend sa douleur, comme disent certains. On est à 70 km de l'arrivée. Le duo Pinot-Majka en route dans un long raid en montagne.
La revanche de Thibaut Pinot, on l'espère évidemment, pour le coureur de la FDJ en grosse difficulté hier, qui a perdu beaucoup de temps. On va voir comment il a pu récupérer de cette contre-performance, de cette défaillance hier dans la montée du col d'Aspin. Mais vous le savez, d'autres événements sont au programme cet après-midi sur RMC, à commencer par le tournoi de qualification olympique de basket qui se déroule aux Philippines, à Manille plus exactement. La France est en demi-finale, il lui faut remporter cette demi-finale avant de gagner également la finale demain. Antoine Arlot est en direct de Manille avec nous. Bonjour Antoine.
Bonsoir. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonsoir. Oui, c'est vrai, il est un peu plus de 21h ici à Manille. Il reste 1 minute 51 dans le premier quart-temps. Et la France qui mène 16 à 13 face à la Turquie. Et je ne suis pas tout seul ici puisque je suis accompagné d'Edwin Jackson qui est un peu le 13e homme de cette équipe de France. Bonjour Edwin.
Bonjour à tous.
Et alors on a vu tout à l'heure, les Turcs qui ont mené de 10 points. Et là, ça a complètement changé, notamment grâce à un Nando de Colo qui nous a enchaîné 2-3 points et maintenant c'est donc la France qui mène. Ça va beaucoup mieux pour les Bleus.
Ouais, ça va beaucoup mieux. On se prend en début de match sur les points qu'on avait abordé avec le coach, c'est-à-dire le rebond offensif, parce qu'avec Arden et Asik, c'est quand même des joueurs à plus de 2m15 et ils pèsent sur le rebond offensif. Nous on décide de jouer petit, donc il faut contrôler le rebond offensif, mettre un peu plus de rythme et essayer de les faire sortir de la raquette, défendre les pick and roll quand ils sont en défense. Et je pense qu'on a dans un deuxième temps, on a su faire ça, c'est comme ça qu'on est revenu au score.
Comment tu les sens, toi qui es à l'intérieur de ce groupe? Comment tu sens cette équipe de France? C'est vrai que ça a été un peu compliqué quand même contre la Nouvelle-Zélande il y a deux jours. Là, ils sont remobilisés.
Après, notre préparation, elle a été compliquée. Il nous manquait des joueurs, c'était court. Ça arrive à un moment de l'année où les joueurs ils sont un peu fatigués. C'est la fin de saison, ils n'ont pas pu se reposer. Et on a enchaîné très vite. Mais je pense que c'est l'état d'esprit qui va primer sur tout le reste. Même si on joue pas un super basket encore qui est pas aussi léché que ce qu'on a pu connaître sur les dernières années. Ça va être beaucoup à l'envie, ça va être beaucoup à la détermination. C'est ce qu'on a fait contre la Nouvelle-Zélande pour revenir. Et on le fait encore aujourd'hui.
Et bien il reste 1 minute 10 très exactement ce premier quart-temps et c'est donc la France qui mène 16 à 13 face à la Turquie, alors que les Turcs vont avoir deux lancers francs en leur faveur maintenant.
Très bien messieurs, on vous retrouve dans un instant. Une grosse ambiance hein, ce soir à Magny pour cette demi-finale du tournoi de qualification olympique. Je ne sais pas s'il y a la même ambiance en Enghien. On va tout de suite voir ça avec Frédéric Zermati pour l'arrivée du quintet. Salut Fred.
Salut Christophe, bonjour à tous. Avec le quintet qui vient d'arriver à l'instant même et la victoire peut-être pour le 8 artiste de Joude. On a eu David Thomin dans l'émission des courses, il était relativement confiant et il s'impose peut-être. Il est à la photo tout de même avec le 5 Ulula Bella, deux concurrents très en vue dans cette épreuve. Troisième place pour un outsider, le numéro 11 Tom Rush, qui a terminé à la vitesse du vent. La quatrième place est pour le numéro 13 Briac Dark, qui a tracé également une très belle ligne droite. Et le 14 Viking Va Bene, le favori de l'épreuve, ne se classe que 5e, ayant connu une petite fin de course difficile. Je vous propose tout cela au conditionnel, car il y a photo, mais je pense que le 8 a gagné. Comme arrivé, 8, 5, 11, 13 et 14, Christophe.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà pour le quintet. Nous allons maintenant traverser la Manche, aller en Angleterre à Wimbledon pour la finale dames qui a débuté il y a quelques minutes et qui oppose Serena Williams à l'Allemande Kerber. Eric Salio évidemment qui est sur place. Salut Eric.
Salut Christophe, salut à tous.
Alors est-ce que le syndrome qui frappe Serena Williams depuis quelques temps en finale de Grand Chelem va encore une fois frapper aujourd'hui?
C'est la grande question hein. C'est sa troisième occasion pour égaler Steffi Graf. On se souvient qu'en Australie elle en avait été privée par Angélique Kerber à la surprise générale. Roland-Garros, nouveau couac face à Garbiñe Muguruza. Et donc, troisième tentative pour Serena. C'est parti depuis 6 minutes, 1-0 pour l'américaine. Il n'y a pas un gros soleil et c'est un peu venté.
Ah bon, eh ben écoute, nous on a du soleil et il n'y a pas de vent. Ben voilà, chacun son truc. Ouais. À tout à l'heure Eric, on va suivre évidemment cette finale avec toi. Et puis tu seras également avec nous demain pour la finale. Homme, retour donc sur les routes du Tour, 8e étape aujourd'hui de cette grande boucle. C'est le deuxième volet du triptyque pyrénéen entre Pau et Bagnères-de-Luchon, toujours sous le soleil et avec un revenant. On vous le disait hier, Thibaut Pinot a sans doute laissé sur les bords du col d'Aspin toutes ses ambitions pour le classement général. Et aujourd'hui, tel le phénix, eh bien, il renaît de ses cendres, Fred, puisqu'il est échappé depuis un long moment maintenant en compagnie de deux hommes en tête de cette course, même si évidemment leur avance ne permet pas d'espérer une grande victoire tout à l'heure. 1 minute 30 d'avance avec encore deux cols et demi, ça va être difficile.
Oui, et d'autant plus que l'on voit des Sky en nombre, en surnombre à l'avant du peloton des favoris, un peloton que l'on ne nommera pas peloton maillot jaune, puisqu'on le rappelle, Greg Van Avermaet, le leader du classement général belge, a cédé dès les premières rampes du Tour Malais tout à l'heure. C'est un coureur qui ne passe pas la haute montagne, qui s'était lancé dans un acte de bravoure hier dans la première étape pyrénéenne via le col d'Aspin. Cette fois, Van Avermaet laisse les principaux prétendants à la victoire finale, les grimpeurs à l'avant de la course, et parmi les grimpeurs évidemment Thibaut Pinot qui a décidé de repartir le couteau entre les dents à la guerre. Thibaut Pinot accompagné donc de Rafał Majka déjà vainqueur de trois étapes sur le Tour de France. Thibaut Pinot lui en a remporté deux pour Rentruy à ses débuts et puis l'étape de l'Alpe d'Huez l'an passé évidemment, et effectivement ces deux là qui sont accompagnés du rouleur Tony Martin dans la Ourquette d'Ancy 6 ans, qui est la deuxième catégorie de la journée, sont pris au sérieux, évidemment, même si Thibaut Pinot a lâché 3 minutes, on le rappelle, dans l'étape d'hier. On ne laisse pas partir Majka et Thibaut Pinot aussi facilement.
Allez, on va tout de suite en tête de course retrouver Georges sur la moto RMC. Georges qui est en compagnie des hommes de tête et qui va nous donner ses impressions concernant Thibaut Pinot. Salut Georges, on s'est déjà dit bonjour, mais enfin on peut se dire bonjour comme ça plusieurs fois dans l'après-midi. Hein, ça n'engage à rien, mon cher oui. Georges. Alors, dans quel état se trouve Thibaut Pinot? Est-ce bonjour, que tu le sens au top? George.
Thibaut Pinot impressionnant hein, qui est parti des les premières rampes du Tour Malais là, qui mène ce groupe de tête avec Rafał Majka et Tony Martin. C'est lui qui est passé en tête au Tour Malais hein, qui a donc pris les 25 points, donc le maximum pour le classement de la montagne. Et les deux hommes avaient lâché même Tony Martin dans les dernières rampes du Tour Malais. L'Allemand est finalement revenu dans la descente. Sacrée impression qu'il nous a fait dans l'ascension du Tour Malais, alors qu'on est maintenant dans la Ourquette dans 6 ans. Thibaut Pinot que j'avais rencontré ce matin avant le départ pour avoir de ses nouvelles après sa déconvenue d'hier. On le sentait déjà passé à autre chose. Peut-être hier, il avait pratiquement les larmes aux yeux après l'arrivée, après avoir perdu près de 3 minutes sur Christopher Froome notamment. Ce matin, on a trouvé un autre garçon très disponible qui est venu s'expliquer, mais qui n'avait pas vraiment d'explication à nous donner par rapport à ce qui s'était passé hier. Il y a eu un gros débriefing à la FDJ. Marc Madiot, le manager, nous l'a expliqué. On a notamment étudié les datas, comme on dit, les données, on va dire, physiologiques de Thibaut Pinot hier. Des données qui ont montré, selon Marc Madiot, que Thibaut n'était qu'à 75% de ses possibilités hier sur l'étape qui menait au lac de Payolle et qui a donc vu sa déconvenue sur la montée d'Aspin. Thibaut nous confiait juste avant le départ: pour moi, c'est l'inconnu, c'est le mystère, c'est ces deux dernières étapes des Pyrénées. On va bien voir ce que je pourrais faire. Mais en tout cas, il doit avoir des sacrées bonnes jambes, Thibaut Pinot. Il a dû le sentir dès le début de cette étape. On est dans une petite portion descendante. Il est dans la roue de Rafał Majka. Thibaut Pinot, retrouvé sur cette deuxième étape des Pyrénées.
Ok, Thibaut Pinot, donc à 75% seulement de ses capacités hier dans la montée du col d'Aspin, et qui aujourd'hui semble revenu à un meilleur pourcentage. Jérôme Pinot, qui ne fait pas partie de la même famille, ça ne s'écrit pas pareil.
Non, pas pareil, non. Il est revenu à un bon niveau, certes, mais attention, parce que c'est un sursaut d'orgueil. Pour le moment, il est devant, il n'y a pas beaucoup d'avance non plus, mais c'est vrai que c'est une belle réaction, parce que hier on l'a vu abattu, et aujourd'hui il retrouve déjà l'envie. Hier, on a vraiment l'impression qu'il s'est fait distancer sans vraiment trop se battre. Alors, bien sûr, il a une panne de jambe, mais la tête n'a pas suivi non plus. Alors, est-ce que c'est un sursaut d'orgueil ou le retour du premier plan? S'il était qu'à 75%, j'ai du mal à croire qu'il ait retrouvé les 25% manquants dans la nuit. Mais sait-on jamais? Peut-être qu'aujourd'hui, il est libéré. Peut-être qu'hier, c'était un jour sans seulement. On va voir. En tout cas, c'est chapeau Thibaut Pinot pour la réaction déjà. Et c'est digne d'un grand champion.
Alors, Cyril Guimard, qu'on a retrouvé dans la tribune commentateur. Bonjour, Cyril.
Bonjour.
Ah, voilà, il a appuyé sur le bon bouton. Cyril, comment tu expliques ce regain de forme? Jérôme disait l'orgueil du champion qui a frappé, vexé évidemment hier soir de sa contre-performance, de sa défaillance, et aujourd'hui il a décidé de tout tenter. Mais est-ce qu'on peut retrouver comme ça en l'espace de quelques heures les 25% de jambes qu'il manquait hier?
Non, ça n'est pas possible. Ou alors l'explication, car il y en a bien une, l'explication il faudra la trouver. Hier il était complètement arrêté. 75%, j'ai presque envie de dire, on n'avait pas besoin de data pour le savoir, c'était visible compte tenu de la vitesse à laquelle progressait le peloton. Hier, quand on se fait lâcher à ce niveau-là et qu'on connaît, on connaît les watts que peut produire lorsqu'il est bien Thibaut Pinot, on savait qu'il manquait effectivement 25%. Aujourd'hui, c'est un autre jour. J'ai envie de dire, il grimpe beaucoup mieux aujourd'hui. Je vais faire un tout petit peu d'humour. Le poids de la pression n'étant plus là, il est beaucoup plus léger.
Et pour c'est reprendre... souvent le cas avec lui, hein, d'ailleurs. Hein. Il a souvent un jour sans. Et pour il s'enlève reprendre... la pression en perdant des secondes, et puis ensuite il retrouve.
Et je vais reprendre le terme utilisé par Jérôme. Il est libéré du poids de la course. Donc maintenant, il peut faire la course telle qu'il a envie de la faire, ou telle peut-être qu'il est seulement capable de faire, c'est-à-dire lorsque il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de pression. À partir de ce moment-là, il peut faire de véritables exploits. Et là, s'il passe encore en tête tout à l'heure, eh bien, il sera vraisemblablement maillot à poids ce soir. Il est déjà virtuellement maillot à poids avec 25 points, puisque Majka, lui qui avait déjà marqué 2 points, en est à 22. Donc il pourrait tout simplement se retrouver avec du poids sur les épaules,
et oui,
le maillot à poids. Et est-ce que là encore, ça ne va pas le bloquer?
Oh, arrête un petit peu tes mauvaises langues.
Je ne suis pas mauvaise langue, je constate qu'une fois qu'il est libéré de la pression, poids de la pression, d'un seul coup, et c'est Newton qui nous l'a appris, quand vous avez moins de poids, eh bien vous grimpez mieux.
Il est libre, Thibaut.
Il est libre, le Thibaut.
C'est pas Max, c'est Thibaut. Il est libre, Thibaut.
Il est libre. Allez, Fred, on fait un point sur les écarts à 65 km de l'arrivée, et ensuite on s'arrête sur le bord de la route pour récupérer quelques bidons. Il fait chaud aujourd'hui sur la route du Tour.
65 km à parcourir et toujours la tête de course dans la Ourcade dans 6 ans. La deuxième difficulté de la journée, un paradis naturel livré aux coureurs du Tour de France. 1 minute 40 d'avance pour le trio tête, Maïka le Polonais, Thibaut Pinot le Franc-Comtois et Tony Martin le solide rouleur allemand. 1:40 d'avance sur un peloton d'une trentaine d'unités où l'on trouve les Sky à l'avant, les Sky qui préparent le terrain pour Christopher Froome. Rappelons que le maillot jaune, Vincenzo Nibali et Julien Alaphilippe sont tous largués dans cette étape reine des Pyrénées.
Il est 15h29, vous êtes sur RMC, l'intégrale Tour de France revient dans un instant. Nous irons également à Manille voir où en sont les Français de l'équipe de France de basket en demi-finale du tournoi de qualification olympique. Et puis nous aurons également à Wimbledon retrouver Eric Salio pour la finale d'âme. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 8e étape du Tour de France au programme des coureurs aujourd'hui entre Pau et Bagnères-de-Luchon, 184 km et 47 km d'ascension. C'est pas rien, 4 cols à escalader. Ils en ont mangé un et voilà le deuxième avalé également par les trois hommes de tête qui viennent de passer au col. Georges Quirino sur la moto RMC avec peut-être Thibaut Pinot une nouvelle fois qui prend tous les points.
C'est ce qu'il a fait exactement au sommet de la Ourcade dans 6 ans, classé en deuxième catégorie. C'est bien Thibaut Pinot qui est passé en tête devant ses collègues d'échappée, Rafał Majka et Tony Martin. Thibaut Pinot donc qui prend encore le maximum de points puisque c'est lui tout à l'heure également qui était passé en tête au sommet du col du Tourmalet, classé en hors catégorie.
Parfait, les écarts Fred entre le groupe de tête et le peloton maillot jaune, le peloton plutôt des leaders parce que le maillot jaune est loin derrière.
1 minute 40 entre le trio tête et le peloton des favoris avec Christopher Froome, avec Alberto Contador, avec tout le monde sauf Nibali, Alaphilippe et le maillot jaune qui effectivement sont distancés.
Parfait, nous filons à Manille pour la demi-finale du tournoi de qualification olympique pour l'équipe de France de basket qui est opposée à la Turquie avec au commentaire Antoine Arlot et Edwin Jackson.
Effectivement, 5 minutes dans le deuxième quart-temps et l'équipe de France qui mène 31-25, peut-être bientôt 26 pour la Turquie puisqu'ils sont au lancer français, le cas 31-26 donc pour l'équipe de France face à la Turquie. Il reste 5 minutes dans le deuxième quart-temps mais on voit quand même Edwin que ça s'est nettement amélioré pour l'équipe de France. On les voit tenter notamment à 3 points, on l'a vu avec Antoine Diot à l'instant. Ça va mieux et ça va mieux aussi au niveau de l'adresse que contre la Nouvelle-Zélande.
Bien sûr, on voit un apport du banc encore très bon, comme contre la Nouvelle-Zélande. Déjà 17 points alors que le banc turc n'en a mis aucun. Et c'est vrai que là, on est avec une ligne arrière avec Nico, Antoine et Tony qui créent beaucoup de jeux, qui créent des décalages et on se crée des chutes ouvertes, on est capable de les mettre dedans. Donc là, Nando va faire son retour, mais vraiment, il y a de l'amélioration dans le jeu et ça se ressent au score.
Et à noter aussi que Nicolas Batum joue également aujourd'hui son premier match avec l'équipe de France dans son tournoi de qualification olympique parce que il a donc signé son nouveau contrat avec Charlotte et que la NBA a validé donc ce nouveau contrat. Il est donc sur le parquet. Il peut amener aussi, Edwin, il peut amener aussi un petit peu de fraîcheur à l'équipe.
Bien sûr, de toute façon, sa valeur est plus approuvée. On l'a vu encore en début de match, il avait fait pas mal de bonnes passes et de bons décalages. Malheureusement, on n'avait pas pu finir les actions. Mais c'est vrai qu'il est précieux dans déjà de connaître le système de Vincent pour l'avoir côtoyé tant de temps. Et il est vraiment sur les aspects de création pour les autres. C'est vraiment un joueur, excellent et dans le jeu sans ballon aussi.
Il reste 4 minutes dans le deuxième quart-temps et donc l'équipe de France qui mène 31-26 dans cette rencontre, peut-être même 33, c'est ce que fait grâce à Tony Parker, 33-26 pour l'équipe de France face à la Turquie.
Très bien, à tout à l'heure messieurs pour la suite de cette demi-finale du TQO qui se déroule aux Philippines à Manille. Nous sommes un peu plus proches avec Eric Salio à Wimbledon pour la finale dames entre Serena Williams et Angelique Kerber.
22 minutes de jeu sur le center court de Wimbledon et 3 jeux partout entre les deux jeunes filles. Serena Williams a sûrement pris le meilleur départ, mais elle n'est pas parvenue à concrétiser 3 balles de break dans le deuxième jeu. L'Allemande, toujours aussi sérieuse, toujours aussi rigoureuse dans ses choix, dans les choix de zone, est parvenue à repousser la menace. Et là voilà, donc à 3 jeux partout dans cette première manche. C'est sûrement pas le scénario qui avait été envisagé par Patrick Mouratoglou, qui a vraiment tiré les leçons, c'est du moins ce qu'il nous a dit hier quand on l'a croisé sur les cours d'entraînement. Il a tiré la leçon de l'échec de Melbourne, mais pour l'instant, Kerber est au niveau et dans ce vent de Wimbledon, eh bien peut-être que Serena a du mal à s'organiser. Donc 3 jeux partout après un peu plus d'une vingtaine de minutes de jeu.
Merci Eric, à tout à l'heure. 15h37, l'intégrale Tour de France, 8e étape du Tour. Nous sommes dans l'ascension de la Ourcade dans 6 ans, qui est la deuxième difficulté. difficulté de la journée qui a été passée il y a quelques minutes par les hommes de tête. Et puis derrière, le peloton maillot jaune également qui va en découdre dans quelques instants. Le peloton maillot jaune retardé avec un retard de plus de 7 minutes.
Voilà, hein. Le groupe maillot jaune, le peloton des favoris est à 1,25 du trio tête Pinot, Machka et Tony Martin. Le groupe maillot jaune avec Van Avermaet, avec Vincenzo Nibali et avec Julien Alaphilippe notamment. Il y a Sylvain Chavanel également dans ce groupe d'attardés. Est à plus de 6 minutes. Il est en train, petit à petit, Greg Van Avermaet, de perdre le leadership du classement général.
Exactement.
Et bientôt, ce sera son dauphin au général, l'Australien, le Britannique, pardon, Adam Yates, qui va être virtuel maillot jaune.
Et oui, parce qu'on le rappelle, ce matin, au départ, Yates était juste devant notre Français Julien Alaphilippe, qui a perdu
pour une seconde
son maillot blanc. Mais Julien Alaphilippe ne pourra pas aujourd'hui décrocher le maillot jaune, car il est retardé loin derrière le peloton des favoris. Nous retournons sur la moto RMC avec Georges Quirino, car c'est l'heure de la carte postale.
Partout en France, ERDF devient Enedis, la carte postale des régions avec Enedis, l'électricité en réseau.
Georges qui nous fait visiter la France sur sa moto. Nous sommes donc sur une étape classique aujourd'hui, Georges. On a passé notamment tout à l'heure le Tourmalet, qui est l'un des cols les plus mythiques du Tour de France. Hein.
Et exactement, le grand monsieur de ce Tour de France, peut-être juste derrière Cyril Guimard, effectivement, ce col du Tourmalet que l'on a franchi tout à l'heure à 2115 mètres d'altitude. C'était la 79e fois que le Tour passait au sommet du Tourmalet dans un décor somptueux. C'est vert, c'est minéral. Tout là-haut, on voit au loin le pic du Midi de Bigorre avec l'observatoire astronomique. Il y avait énormément de supporters comme d'habitude massés sur les derniers kilomètres, donc vraiment un endroit somptueux de ce Tour. La première fois que le Tour y était passé, c'était en 1910, et c'était un certain Octave Lapisse qui était passé en tête le tout premier tout là-haut, et il avait dit aux organisateurs à l'arrivée: messieurs les organisateurs, vous êtes des assassins de nous proposer ça, cette ascension du Tourmalet, donc que nous avons vécu tout à l'heure, avec au sommet une stèle qui est posée. C'est la stèle de Jacques Godet, l'ancien directeur du Tour de France, directeur du Tour de France historique, qui a donc droit à sa stèle au sommet. Et ensuite, Christophe, on a basculé dans la descente, où on est passé notamment par Sainte-Marie de Campan, et l'une des plus belles légendes du Tour qu'on rappelle chaque année. Mais elle est tellement incroyable, cette histoire de 1913, lorsque Eugène Christophe, en descendant le Tourmalet par cette route-là, avait cassé sa fourche, il avait marché ensuite pendant 14 km jusqu'à Sainte-Marie de Campan, et était rentré chez un forgeron pour reforger lui-même la fourche de son vélo et repartir. Voilà, c'est une étape légendaire du Tour entre Pau et Bagnères de Luchon, et donc forcément il y a énormément d'histoires sur ces endroits. Et même nous, voilà, pour être tout à fait honnête, quand on prend le départ de cette étape là sur la moto, on se dit quand même, oh là là, on va gravir le Tourmalet aujourd'hui. Donc c'est toujours quelque chose de particulier, cette étape.
Évidemment. Cyril, juste un petit mot sur Lapisse, qui disait donc en 1910: messieurs les organisateurs, vous êtes des assassins. Il faut dire qu'à l'époque, les vélos n'étaient sans doute pas aussi légers que ceux d'aujourd'hui, et surtout la route était dans un drôle d'état quand même, hein, montée au Tourmalet. C'est encore un plus grand exploit que ça ne l'est aujourd'hui.
Là, c'était surtout des routes en terre, hein, qui n'étaient utilisées qu'à partir du moment où il n'y avait plus de neige, et donc on a fait passer le Tour de France sur ces routes. Alors c'est vrai que ce qui était le plus compliqué, c'était le nombre de crevaisons par coureur, donc parce que sur ces routes, on n'était pas obligatoirement outillé avec des boyaux qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Et puis surtout, il y avait un autre problème qui se posait, c'était le problème des braquets. Parce qu'il n'y avait pas de dérailleur, on n'avait pas un double plateau à l'avant, voire un triple dans certains cas, avec 11 vitesses à l'arrière, c'est-à-dire qu'on n'en avait qu'une seule.
Alors, oui,
on avait un plateau à l'avant et puis une roue libre à l'arrière. Alors, on arrivait à avoir deux développements différents, mais il fallait s'arrêter et changer la roue de côté. Donc, voilà. Bon, c'était une autre époque, c'est ce qui a fait d'ailleurs, la notoriété du Tour de France, et le fait qu'il y a tout ce côté mythique autour des coureurs et qui a bâti toutes ces légendes. Mais vous savez, il y a quelques années, le Tourmalet, on l'a gravi deux fois dans le même Tour de France. C'était en 1974 et il y avait eu d'ailleurs la première arrivée au sommet et c'est Jean-Pierre Dampguillaume qui l'avait emporté. Et le lendemain, on le passait dans l'autre sens avec l'arrivée à Pau et cette étape avait également été remportée par Jean-Pierre Dampguillaume. Alors si vous allez dire à Jean-Pierre Dampguillaume que les organisateurs sont des assassins, il va vous dire non, c'est le plus bel, c'est le plus bel exploit de ma carrière.
Évidemment, parce que passer au col du Tourmalet en tête, c'est évidemment un grand moment que peu de coureurs dans leur carrière ont eu l'occasion d'avoir, mon cher Jérôme Pinault. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de passer en tête au sommet du Tourmalet, par exemple?
Ah non, jamais, jamais, ouais. Jamais passé en tête au col du Tourmalet.
Tu l'aimes bien, celui-là? Est-ce que c'est un col?
Ouais. On aime bien, quand on est coureur, de toute façon, on aime bien monter l'école mythique. Hein. On aime bien passer par le Tourmalet, par le Galibier, par l'Alpe d'Huez, enfin toutes ces arrivées mythiques qui résonnent dans la tête de tout le monde, c'est un grand plaisir à chaque fois. Maintenant, de ce côté-là, par Barret, j'étais un peu moins à l'aise que dans la Mongie. J'ai toujours fait des meilleurs tours quand on passait par la Mongie. Alors ça devait rien avoir, je pense, hein, parce que quand je montais à l'époque où je grimpais à peu près bien, c'était souvent plutôt en 40 ou 50e position, donc j'avais malheureusement jamais eu la chance de passer en tête au sommet du Tourmalet.
Bon, c'est déjà pas mal hein, d'être passé en 40e position. On n'a pas eu cet honneur, nous, hein, Fred. Hein, hein. Mais tu l'as gravi, toi aussi.
Moi, sans faux.
Mais pas en peloton.
Et une autre vitesse.
En regardant les vaches.
En regardant davantage le paysage. Absolument.
Georges, vous voulez ajouter un mot depuis sa moto?
Sur le Tourmalet, oui, juste pour rajouter que vous savez que ça rapporte aussi de passer en tête au Tourmalet, puisque je vous parlais de la stèle Jacques Godet, de l'ancien directeur du Tour. Il y a un prix Jacques Godet également pour celui qui passe en premier le Tourmalet. Donc c'était Thibaut Pinot qui a du coup gagné une petite prime, puisque c'est le premier à être là-haut, une prime de 5000 euros. Voilà, pour Thibaut Pinot qui va pouvoir encaisser un beau chèque ce soir pour être passé tout là-haut en tête.
Et ben voilà, ça t'arrangerait ça, Georges, pour combler les fins de mois.
Bah, d'ailleurs, on est passé devant lui, donc j'aimerais bien qu'on voit Christian Prudhomme à l'arrivée, si on ne peut pas avoir le chèque.
Va lui demander, je pense qu'il va te recevoir. Très bien, nous repartons pour Magny, la demi-finale du tournoi de qualification olympique pour l'équipe de France de basket. Nous sommes à la mi-temps, Antoine Arlot.
Oui, c'est la mi-temps à l'équipe de France qui mène 37-30 ici à Mali face à la Turquie. Ça va beaucoup mieux pour l'équipe de France, ça se passe plutôt bien. L'équipe de France, Edwin, qui domine plutôt cette première partie de match.
Ouais, qui domine surtout le deuxième quart-temps. Il y avait plus de scoring. On a vu Tony se mettre un peu en rythme sur les drives. Nando, pareil. C'est vrai qu'ils fatiguent. On continue à fatiguer, à bouger leur grand. Et je pense qu'à force de le faire, en deuxième mi-temps, on va vraiment avoir des ouvertures si on commence à mettre l'extérieur. Je pense que ça va commencer à sentir bon.
Et le match qui va reprendre dans 12 minutes très exactement ici à Mali. Et c'est donc la France qui mène 37-30 face à la Turquie. Juste un mot pour signaler, je l'ai pas fait depuis tout à l'heure, mais que c'est le Canada qui est l'autre équipe qui s'est qualifiée pour la finale. Donc si la France bat la Turquie ce soir, elle affrontera le Canada demain à 15h en finale.
Eh bien, nous suivrons ça avec vous, monsieur Arlot, monsieur Jackson, demain, on l'espère en tous les cas pour cette finale du TQO qui offrira donc à l'équipe qui l'emportera un billet pour les Jeux de Rio. Allez, on se quitte quelques instants et on revient rapidement sur la route du Tour. On vous rappelle Thibaut Pinot fait partie d'un groupe en tête de cette 8e étape du Tour de France, mais leur avance est en train de décroître rapidement. En gros, 1 minute 20-25, hein, c'est ça Fred, au dernier pointage.
1 minute 15 au dernier pointage. Effectivement, les trois hommes de tête dans la vallée après la descente de la Ourcade dans 6 ans en direction du troisième col de la journée, le col de Val-d'Ouron. On discute, on s'observe, on essaye de se ravitailler. 51 km à parcourir pour ces trois hommes de tête.
Et ce sera probablement le col le plus dur, le col de Val-d'Ouron. Il est moins long que le col du Tourmalet, mais il est redoutable. Jérôme va nous en dire quelques mots dans quelques instants. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et on se rapproche du pied du col de Val-d'Ouron-Azé. Troisième difficulté de cette journée qui en compte 4. Il y aura ensuite le col de Peyresourde à franchir. Fred, l'écart se réduit. Ça va devenir très compliqué pour les trois hommes de tête, dont Thibaut Pinot, on vous le rappelle, qui s'est refait un peu la cerise aujourd'hui.
L'écart stabilisé à 1 minute effectivement, à 48 km de l'arrivée. Il reste Val-d'Ouron-Azé en première catégorie et le dernier col de la journée, Peyresourde également en première catégorie. Pointage 1 minute d'avance d'avance pour le trio tête dans la vallée à l'approche de Saint-Lary-Soulan.
C'est l'heure de notre débat avec nos confrères du Parisien dans l'intégral Tour de France. David Opozinski nous a rejoint comme tous les jours. Bonjour David.
Bonjour messieurs. Bonjour,
alors messieurs. Surpris David de voir Thibaut Pinot à l'attaque aujourd'hui alors qu'hier il était quand même en pleine déconfiture.
Bah pas forcément, parce que hier soir quand on l'a laissé, il y avait malgré tout un petit message d'optimisme dans le camp de la FDJ, c'était de dire que par le passé, on a souvent vu que quand il avait été mal un jour, il était brillant le lendemain, performant. Voilà. Et puis on connaît son caractère aussi, hein, et il n'ose pas facilement. Donc finalement, c'est pas vraiment une surprise.
Cyril, est-ce que aujourd'hui Thibaut Pinot peut viser autre chose que des victoires d'étape, ou alors que ce maillot de meilleur grimpeur, le maillot blanc à pois rouges, qui pour l'instant est virtuellement sur ses épaules, ou est-ce qu'il peut encore avoir des prétentions pour le classement général?
Pour le classement général, non. Non, pour le classement de la montagne, oui, parce que là, il est en train de tessoriser un maximum de points, puisqu'il va vraisemblablement, enfin, peut-être passer encore le prochain col, le col de Louron en tête, et donc prendre des points. Mais d'ores et déjà, il se retrouve avec 30 points, ce qui est une avance confortable sur, on va dire, les favoris du Tour dont il ne fait plus partie. Mais oui, il peut viser les victoires d'étape et le classement par points. Ça ne peut être aujourd'hui que son objectif, car sinon venir faire 8e du Tour de France pour lui ne représente plus rien, n'a pas d'intérêt. Ça, ouais. Il n'était pas venu pour ça.
Bien sûr.
Quel est le verbe que tu as utilisé?
Tésorisé, oui.
Tésorisé, d'accord, oui. J'avais compris.
THE.
D'accord, très bien, je suis en train de le chercher.
Oui, bah oui.
Vous m'en apprenez
monsieur
tous les jours.
Lettres,
vous m'en apprenez tous les jours, messieurs.
Jérôme, ce maillot à pois rouges peut-il devenir un objectif pour Thibaut Pinot? On sait que ce maillot a souvent fait les délices de nos champions français. On pense évidemment à Richard Virenque ou à d'autres, hein, qui ont acquis leur notoriété et leur popularité finalement en allant chercher ce maillot à pois rouges. Est-ce que Thibaut Pinot peut aujourd'hui connaître le même sort?
Oui, c'est un objectif qui peut devenir sa principale attraction sur ce tour, mais moi ça me choque parce que le maillot du meilleur grimpeur, par définition, faut quand même bien grimper, faut avoir la bonne canne, il faut choper l'échappée, il faut marcher. Il faut marcher pour être maillot à poids du tour. Et s'il marche, pourquoi hier il a pété? C'est ça le problème, c'est qu'il y a un problème dans sa tête et que s'il a besoin pour se libérer de prendre 4 minutes à chaque fois, je pense qu'il faut plus qu'il annonce qu'il vise le général. Et surtout, son manager va commencer à lui dire attention, le contrat on va le baisser un peu parce que t'es pas payé pour être maillot à poids du tour, t'es payé pour être sur le podium.
Sauf que Thibaut Pinot a re-signé pour 2 ans à la FDJ juste avant le championnat de France, ou juste avant le départ du Tour de France en tout cas. Le contrat est bel et bien scellé et ses salaires assurés pour 2 ans et demi encore.
On ne doit pas s'arrêter à ça, on doit continuer à essayer de trouver pourquoi Thibaut connaît une journée sans avant d'exceller, parce qu'aujourd'hui c'est encore une belle réaction malgré que l'écart diminue et qu'il va pas faire un grand numéro comme il pouvait l'imaginer. Il est là, il retrouve des jambes, il a du mal à dormir cette nuit, donc ça veut dire quand même qu'il a cette capacité, il a l'orgueil du champion, il a les jambes, la tête des champions, mais sur la première journée, il se loupe et ça, il va falloir continuer à travailler. On peut pas baisser les bras aujourd'hui et dire Thibaut Pinot maintenant visera uniquement le maillot à pois sur le tour. Non, il doit continuer à essayer d'arriver à son niveau, à son meilleur niveau sur le tour et viser le général.
C'est pas assez ambitieux pour lui, hein. On sait qu'il a le talent, qu'il a une classe folle, ce garçon. Il doit pouvoir aller inquiéter les meilleurs. Il l'a montré tout au long de la saison. Et pourquoi sur le Tour de France? C'est quand même étonnant, David.
C'est certain qu'en termes d'approche de son Tour de France, dans le futur, il va y avoir une sérieuse remise en question. De toute façon, l'analyse va être faite. Hein. Ils sauront pourquoi Thibaut n'a pas marché hier. Mais ce qui est sûr, c'est que comme l'a rappelé son frère, qui est aussi son entraîneur, Julien Pinot, il y a des Tours de France, il va encore faire, il peut encore en faire 10. Donc, c'est sûr qu'avec l'expérience, peut-être qu'un jour, ça finira par payer.
Très bien.
40 secondes seulement d'avance, dernier pointage pour les trois hommes de tête sur le groupe des favoris.
On n'a plus le temps. Je décroche.
On va laisser passer les infos et on reviendra juste après les infos de 16h. Merci David Opozinski d'être venu dans notre petit camion. On retrouve évidemment toutes les pages Tour de France dans l'excellent quotidien Le Parisien. Les jours, il y a plein de pages. Il n'y a pas que du foot dans Le Parisien.
Absolument.
Il y a aussi du vélo.
Il y a de tout.
Merci David. Rapidement, un petit tour à Wimbledon pour la finale dames, Eric Salio, où en sont Serena Williams et Angélique Kerber.
5 jeux partout dans cette première manche avec une Angélique Kerber qui est un peu les stats du Portugal. Je m'explique, c'est pas très beau ce qu'elle fait, mais alors c'est d'une efficacité assez incroyable. 5 coups gagnants. Bon, c'est très peu, mais 3 fautes directes seulement. Et c'est voilà comment elle parvient à rivaliser avec une Serena Williams qui frappe très fort, qui frappe des aces, qui frappe beaucoup de coups gagnants, mais qui n'arrive pas à faire la différence dans cette finale. Donc elle va commencer, je pense, à ressentir un petit peu de pression, l'américaine. 5 jeux partout et 15-30-30 à désormais sur le service de Serena Williams.
Merci Eric, à tout à l'heure. Allez, il est 15h56, on s'arrête sur le bord de la route, on vous attend hein, sur le bord de la route, on revient juste après les infos de 16h, à tout à l'heure.